BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Morris.
Et bienvenue dans Happy Boulot. Quel plaisir de vous retrouver sur BFM Business ce week-end encore. Au programme de notre émission dans l'entretien des RH, l'importance du feedback. Les retours que les employeurs font à leurs salariés et vice-versa d'ailleurs. Ça fonctionne dans les deux sens. Nous recevons Stéphane Moriou, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations. Nous ferons aussi un point sur l'égalité professionnelle au travail entre les femmes et les hommes. Vous allez voir que malgré le renforcement des obligations légales, les problèmes persistent. Étude à l'appui, on vous la présente dans un instant. Nos invités présenteront aussi leurs solutions. Et puis en fin d'émission, le Labo RH. Nous recevons Alexandre Cadin, le président de Worklib, plateforme qui permet aux entreprises d'organiser le travail hybride. Voilà le programme. Merci d'être avec nous. C'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Bonjour Stéphane Moriou.
Bonjour Herman.
Merci d'être avec nous ce week-end dans Happy Boulot, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations chez Duno, sorti le 15 mars. C'est tout frais. Vous partez d'un constat, Stéphane Moriou, il faut réapprendre à se parler dans les entreprises. Et ce constat, vous ne le faites pas par hasard, parce que vous-même, vous avez aussi une carrière dans les entreprises. Peut-être qu'on peut commencer par là d'ailleurs.
Oui, alors le constat quand même, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un océan d'informations et quelque part un désert de feedback. On se parle beaucoup, on reçoit beaucoup d'informations, mais finalement, est-ce qu'on se dit des choses de qualité? Est-ce qu'à un moment, on sait se poser? Le constat est souvent que non. Et le feedback, ça n'est jamais qu'un mot, mais derrière lequel il y a un certain nombre de choses et qui, quand on va le maîtriser, va nous permettre à un moment donné de se poser et de se parler un petit peu différemment.
D'ailleurs, pourquoi feedback? Pourquoi on n'utilise pas un mot français? La langue française n'est pas assez riche pour parler de ce que c'est que le feedback au sens où on va l'utiliser dans les entreprises.
Eh bien, effectivement, vous ne croyez pas si bien dire. Il n'existe pas dans la langue française un mot qui dise nourrir en retour. Feed, ça veut dire nourrir, back en retour. Il y a des mots proches, il y a des mots qui sont apparentés à cette idée-là.
Ça pourrait être quoi? Des retours d'expérience,
retour d'expérience, on peut parler tout simplement de faire un retour. Si on veut être un peu plus ingénieur, on va dire faire une rétroaction. Parfois, on veut dire, mais pourquoi pas débriefing? Alors, qui est un autre.
Voilà. Bah, c'est de l'anglais encore.
C'est encore de l'anglais. Donc, en fait, on dit que le feedback, c'est un pérégrinisme, c'est un mot qui voyage d'une langue à une autre. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc on l'a gardé parce que c'est celui qui, dans l'univers business, est celui qui est un peu consacré.
Le feedback, c'est aussi un outil pour motiver les salariés?
Oui, alors c'est un outil qui va avoir plusieurs avantages, plusieurs bénéfices. C'est d'abord un outil gratos, pas complètement anodin, mais c'est un outil qui va avoir un premier impact sur l'estime de soi. Si on se partage du feedback, on va remplir les réservoirs à estime de soi des autres. Et dans un monde où c'est parfois un peu difficile, on fait beaucoup d'efforts, on n'a pas toujours ce retour, ça va être important. Et puis de l'autre côté, ce qu'on démontre dans le livre, c'est que le feedback, c'est surtout un outil de performance. C'est pas juste un petit outil de communication, d'un truc de RH, de psychologie positive ou de développement personnel. C'est un vrai outil de performance. On peut faire de la performance sans feedback, mais vous ne pourrez jamais faire de haute performance sans feedback.
Et ça, bien sûr, c'est un argument, enfin, c'est un atout qu'on met en avant auprès notamment des employeurs, parce que parfois, ils vont peut-être se dire, je vais perdre du temps à faire des retours, j'ai pas le temps. Et en fait, ce que vous nous expliquez aussi dans votre livre et à travers votre expérience, vous aussi autant que DRH, c'est que il y a une plus-value derrière qui est réciproque.
Oui, alors mon travail en fait aujourd'hui, que ce soit par le livre ou les conférences ou les ateliers que j'anime ou les interventions que je fais dans les entreprises, c'est de montrer au comité de direction, aux managers et aux collaborateurs collaboratrices que parfois, en étant attentif à ces petits outils-là, il y a des bénéfices pour tout le monde. Et je pense qu'une des choses qui a fait qu'aujourd'hui, on a réussi à accompagner autant d'entreprises jusqu'à présent, c'est que on a justement montré à des comités de direction en particulier, qui financent quand même ce genre de programme, que c'est pas juste quelque chose pour faire joli sur une plaquette. Il y a un intérêt business, il y a un intérêt... Alors, je dis souvent, c'est le feedback, c'est l'outil qui permet d'être simultanément exigeant et bienveillant. On a une histoire dans laquelle les dirigeants avaient beaucoup d'exigences vis-à-vis de leurs salariés. On est dans un nouveau monde dans lequel il faut pas être que bienveillant, il faut être à la fois exigeant et bienveillant, et quand on cherche à cumuler les deux en même temps, il n'y a pas beaucoup d'outils, le feedback en est un.
Stéphane Moriou, comment on fait quand on ne sait pas faire? Parce que c'est aussi une histoire d'apprentissage, de savoir communiquer avec ses salariés, ses collaborateurs, faire ces fameux feedbacks?
Alors, la première chose, c'est d'abord l'admettre. Parce que la remarque que vous faites est très bonne, c'est de se dire, mais tiens, finalement, je ne suis peut-être pas très bon. Ensuite, ce que je démontre, c'est que le feedback, c'est comme une langue étrangère. Ça repose sur un vocabulaire, il y a un vocabulaire feedback, il y a une grammaire, il y a des règles feedback. Si vous voulez qu'on communique en mode feedback, il va falloir apprendre cette langue étrangère. Et comme dans cette métaphore avec la langue étrangère, vous n'allez pas devenir bilingue feedback tous les jours, du jour au lendemain. Ça fait 20 ans que je travaille vraiment sur ce sujet. Depuis 2014, je l'enseigne vraiment. J'ai progressé. Ouais. Je pourrais dire que je suis feedback, lu, écrit, parlé. Mais je ne me définis pas comme bilingue. Je fais encore des erreurs. Je pense que c'est l'histoire d'une vie.
Donc, c'est un apprentissage perpétuel. On parlait de la manière aussi d'appliquer son management. Il y a des managers qui appliquent une méthode autoritaire, parfois depuis 15 ans. D'ailleurs, vous parlez beaucoup d'autorité dans ce livre, parce qu'ils pensent que c'est le meilleur moyen de faire avancer son service, faire avancer son entreprise. Comment est-ce qu'on dit à un manager qui a fait ça toute sa vie, il faut arrêter, il faut faire des feedbacks?
Alors, on lui explique que le feedback, en réalité, l'intérêt du feedback est pour nous le symptôme de quelque chose de plus grand et qui touche tous les pans de la société, pas que les entreprises, qu'on a baptisé la révolution des autorités. En deux idées. La première, c'est que depuis 300 000 ans, nos rapports sont fondés sur des rapports d'autorité par soumission. Alors, 300 000 ans, Homo sapiens, c'est le principe de la peur. Je vous fais peur, vous me faites peur, et donc je vais exécuter ce que vous voulez. Et depuis 300 000 ans, ça existe. C'est aujourd'hui challengé par une deuxième forme d'autorité. Ouais. Cette autorité, on l'a baptisée l'autorité par engagement. Elle fonctionne pas sur la peur, elle fonctionne sur la confiance. Et aujourd'hui, ce qui est assez troublant, c'est que on voit des excès de l'autorité par soumission, mais on voit aussi des excès de l'autorité par engagement, parce que on ne peut pas manager une entreprise que en étant bienveillant et qu'en mettant des baby-foot partout. Et
donc, il faut trouver le bon mix, en fait.
Exactement. Ouais. Tout notre propos, c'est de dire, en fait, il faut trouver le bon point de pondération entre de l'autorité par soumission, qui est un très bon moyen d'obtenir des résultats court terme, et de l'autorité par engagement, qui est un très bon moyen d'obtenir des résultats long terme.
Est-ce que c'est aussi une histoire, disons, de génération, de culture, d'éducation? Est-ce que les jeunes générations sont meilleures dans ce domaine-là? Est-ce que les Américains sont meilleurs que les Européens? Est-ce qu'on peut dessiner une carte, cartographier un peu tout ça?
Alors, il y a des spécificités culturelles de région à région. Ce qu'on a démontré dans nos travaux avec mon équipe de recherche, c'est qu'il n'y a pas un pays qui peut se prévaloir d'une parfaite exécution du feedback. Les Américains sont très bons dans le compliment, dans le surcompliment même. Nous, on est les champions du monde du négatif. Bon, voilà, chacun doit apprendre de l'autre. En ce qui concerne les nouvelles générations, ce qu'on observe dans beaucoup d'études, c'est que les nouvelles générations ont une appétence pour le feedback beaucoup plus importante que les générations précédentes. Donc, elles veulent en recevoir, elles en attendent. Et quand on a des managers un peu plus seniors qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas les clés et qui essayent, mais qui ne comprennent pas complètement cette langue, on arrive à des
parfois
choses...
Parfois, on ne se comprend pas.
On se comprend pas.
Et comment on fait pour démêler une situation où on ne se comprend pas?
Alors, d'abord, il faut se poser la question de pourquoi on veut mettre plus de feedback dans une entreprise. Il faut commencer par le sens de la chose, parce que bien évidemment, on ne va pas forcément chercher la même ambition feedback selon notre business, selon notre compétition, etc. Mais ensuite, la clé, c'est contrairement à beaucoup de formations management où on ne forme que les managers et puis ensuite on espère qu'il y ait des miracles sur le terrain, dans le feedback, comme c'est une langue, si vous voulez que les gens la parlent, il va falloir former manager et collaborateur en même temps.
Il faut que tout le monde parle la même langue, donc il faut que tout le monde soit formé de la même manière.
Exactement.
Est-ce que on parlait d'autorité, est-ce que vous pensez que certains managers ont encore peur de perdre cette autorité qu'ils considèrent avoir acquise pendant plusieurs années? Parfois, on sait que on rentre dans une entreprise, on sait que un manager, un dirigeant en impose, entre guillemets, il a imprimé sa patte et bon, on va faire très attention à l'attitude peut-être qu'on va avoir face à lui. Est-ce que si un jour il se dit je vais peut-être commencer à faire plus de retours, à mieux communiquer auprès de mes salariés, je vais perdre un peu cette image que j'ai créée?
Oui, ce qu'on voit en fait, c'est que l'autorité historique, elle repose sur un certain nombre de choses. Par exemple, elle repose sur un titre. Vous avez un gros titre, donc on fait attention. Vous avez un grand bureau en haut d'une tour avec plein de fenêtres, si possible en angle, ça veut dire quelque chose. Vous avez de l'ancienneté, c'est une autre forme d'autorité. Il se trouve qu'aujourd'hui, et en particulier sur les jeunes générations, ces formes d'autorité-là n'ont pas de sens. Et on le voit pas seulement dans les entreprises, on le voit à l'école, on le voit dans la police par exemple, on le voit dans la politique. Cette révolution des autorités, le grade, l'ancienneté ou le symbole de pouvoir ne suffit plus.
Stéphane Mariou, pour terminer, votre feedback sur cette interview?
Eh bien, La chose qui me frappe le plus par rapport à d'autres interviews que j'ai pu avoir, c'est que vous l'avez préparé, vous l'avez creusé sur le fond des sujets du livre. Vous n'êtes pas contenté de faire ce qu'on fait avec beaucoup de livres anglo-saxons qui consistent soit à lire la jaquette, soit à lire les 10 premières pages. Vous avez vu les thèmes. Donc pour ça, je vous remercie beaucoup. C'est un vrai plaisir.
Ben, merci à vous et merci d'être venu.
Merci à vous. Merci pour l'invitation.
Merci d'avoir été avec nous dans Happy Boulot, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Allez, on se parle maintenant de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Jeanne Spicarolen, vous nous rejoignez. Bonjour Jeanne. Malgré le renforcement des obligations légales, les problèmes persistent dans les entreprises. Études à l'appui.
Les entreprises ont publié leurs résultats. C'est une note sur 100 basée sur plusieurs indicateurs comme l'écart de rémunération ou la parité parmi les plus hautes rémunérations. Et ces résultats sont meilleurs que l'an passé. 88 sur 100 en moyenne contre 86 sur 100 l'an passé selon le gouvernement. Mais attention, il reste des efforts à faire car 2% des entreprises seulement ont une note de 100 sur 100 et 77 entreprises ont une note inférieure à 75 sur 100 depuis 3 ans.
Et Jeanne, alors parmi ces entreprises, qui sont les bons et les mauvais élèves ?
Les grandes entreprises concluent bien plus d'accords que les petites entreprises. C'est ce qu'on constate dans cette étude menée par Sia Partners et Sextant Expertise. 65% des ETI contre 5% des PME. Et petite surprise, les entreprises du secteur industriel sont plutôt bons élèves puisqu'elles représentent 29% des accords signés alors qu'elles ne représentent que 7% des entreprises françaises.
Merci Jeanne, on va plus loin avec nos deux invités qui nous rejoignent. On va avec vous mesdames voir si vous avez aussi d'autres propositions pour avancer sur ces sujets. Bonjour Elisabeth Moreno.
Bonjour à tous et à toutes.
Ravi de vous retrouver sur BFM Business, chef d'entreprise, ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, de la diversité, de l'égalité des chances dans le gouvernement de Jean Castex. Et Isabelle Nicolas, directrice opérationnelle de Sextant Expertise.
Bonjour.
Cabinet qui accompagne les entreprises dans leur mission stratégique. Vous avez donc mené cette étude avec le cabinet de conseil Sia Partners.
Oui.
Jeanne vient nous en dévoiler les grandes lignes. Le chemin avance, mais il y a encore des choses à faire. C'est peut-être ça la première conclusion là, qu'on peut tirer.
Effectivement, il reste du chemin. On a vu, comme le disait Jeanne, que la mise en place d'un certain nombre d'outils comme l'index avait permis de booster l'égalité professionnelle.
Il y a une vraie efficacité quand même de cet index.
Alors,
on le constate.
Il y a une efficacité auprès des entreprises qui ont moins de 75, comme en parlait Jeanne, oui. Puisqu'elles ont une obligation de mettre en place des plans d'action ou de la négociation, et donc elles le font. Donc ça, c'est un point très positif. Ce qu'on voit aussi dans les résultats de cette étude que nous avons menée avec SIA, c'est que plus les entreprises négocient, meilleures sont leurs notes et meilleure est leur progression. Donc ça, c'est un point important. Néanmoins, il reste un certain nombre de sujets sur lesquels avancer. Je pense qu'on va y revenir ensuite, comme la promotion, par exemple.
Enchaînons tout de suite là-dessus. Elisabeth Moreno, vous avez eu aussi ces dossiers entre les mains. Les choses ont avancé. Il y a encore du chemin à parcourir. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour continuer à faire avancer ces dossiers et aller vers plus d'égalité dans les entreprises ?
Je pense que la première chose à faire, c'est de reconnaître que cette loi que Muriel Pénicaud avait fait voter a permis une prise de conscience de l'état des lieux. Parce qu'il faut quand même reconnaître que, alors que, vous savez, il y a un indicateur qui dit quand une femme part en congé maternité, il ne faut pas oublier de l'augmenter parce qu'elle a travaillé avant de partir en congé maternité. Eh bien, vous avez beaucoup d'entreprises qui disaient, en fait, on ne savait pas. Donc, vous avez des entreprises qui ont des juristes, qui ont des équipes juridiques qui ne leur ont pas dit que quand une femme part en congé maternité, la loi date de 2006. Mince, alors, on a oublié de l'augmenter. Vous avez des entreprises qui... ou très très peu de femmes dans leurs 10 plus gros salaires, alors que les femmes contribuent au même titre que les hommes à délivrer les résultats. Donc je pense que la première chose qui était importante à faire, c'est de conscientiser ces inégalités, parce que moi j'ai entendu beaucoup de personnes dire quand j'étais au gouvernement, mais vous nous fatiguez avec ces questions d'égalité femmes-hommes, dans notre pays il n'y a pas de sujet. Eh bien si, cet index Pénicaud a permis de réaliser qu'il y avait des inégalités de traitement, et notamment dans les augmentations de salaire. Mmh. Souvent les femmes sont moins augmentées que les hommes, alors que, encore une fois, elles contribuent de la même manière. Mmh. Donc je pense que les résultats montrent que les choses progressent, mais à mon goût, elles progressent beaucoup. beaucoup trop lentement. Et je pense qu'il
qu'est-ce
faut continuer.
Qu'est-ce qui manque pour aller plus vite ?
Eh ben, je pense qu'il faut pas attendre d'avoir à remplir l'index pour en parler. Déjà, et je pense que le travail que SIA fait, par exemple, et toutes les études qui sont faites par les professionnels permettent de mettre le sujet sur la table, de pouvoir en discuter aussi bien avec les salariés qu'avec les partenaires sociaux, avec les syndicats, parce que vous savez, le problème des droits des femmes, c'est que soit ils avancent, soit ils reculent. Il n'y a pas de statu quo. Il faut vraiment avoir à l'esprit que ce sujet, si on n'en parle pas, il piétine. J'ai lu un article ce matin avec beaucoup de tristesse qui disait que l'autrice disait qu'elle était contre les quotas. Ben, être contre quelque chose qui fait avancer les droits des femmes, pour moi, c'est assez paradoxal. En 10 ans...
Vous voulez dire qu'on est obligé, de toutes les manières, de passer par là, même si...
Eh ben, s'il n'y avait pas eu l'index...
Si idéologiquement, on est contre,
s'il
faut passer par là.
Je vais vous dire de manière très pratique et concrète. S'il n'y avait pas eu la loi Copé-Zimmermann, on ne serait jamais passé de 9 à 45% de femmes dans les conseils d'administration en 10 ans. Ça faisait au moins 100 ans qu'on essayait. J'exagère à peine. Si on n'avait pas eu la loi de Marie-Pierre Rixain, on n'aurait pas parlé du fait que les conseils d'administration, cette loi n'a pas rayonné, si je puis dire, dans les COMEX et les CODIR. Parce que l'un des indicateurs de l'index Pénico, c'est de voir aussi les responsabilités des femmes, les promotions des femmes. Eh ben, on se rend compte que ça progresse extrêmement lentement. Donc, avoir la possibilité d'étudier, d'analyser, de comparer, c'est une manière de progresser.
Isabelle Nicolas, comment est-ce que vous accompagnez justement aussi les CSE
ces
enjeux-là
et les organisations syndicales. Voilà. En fait, dans les prérogatives des partenaires sociaux, il y a la possibilité de se faire accompagner par un expert pour établir le diagnostic de la situation. Donc en fait, on va prendre la note à l'index, mais on va regarder également toutes les composantes de l'égalité professionnelle en entreprise, la mixité à l'embauche, la mixité dans l'accès à la formation, à la promotion, dans les conditions de travail aussi, parce que c'est un des enseignements de l'étude, c'est qu'on parle de plus en plus de conditions de travail et de qualité de vie au travail, d'équilibre des temps de vie. Donc ça aussi, ce sont des facteurs qui aident à l'égalité.
Une fois qu'on a mis tout ça sur la table, ça fait aussi prendre conscience aux employeurs des failles qui existent
exactement
dans l'entreprise. Ils n'en avaient pas forcément conscience.
Alors, ce qu'on voit souvent dans la rédaction des accords, c'est que la loi prévoit un certain nombre de domaines à traiter. Les entreprises choisissent parmi les domaines. Faire le diagnostic, ça permet de cibler les domaines les plus importants et les plus urgents à traiter pour pouvoir avoir une politique qui se mène sur la durée et avec des résultats et des objectifs qualitatifs. Ce qu'on voit aussi, c'est que très souvent... dans les accords, on va reprendre les textes de loi en disant, par exemple, on ne va pas faire de discrimination à l'embauche. Bah, super, c'est la loi.
Oui, c'est la base, en fait.
Donc, il faut aller plus loin. Et donc, avoir un diagnostic qui permet de voir, sur tel type d'emploi, on embauche plutôt des hommes, sur tel type d'emploi, on embauche plutôt des femmes, va permettre de dire quels moyens on met pour aller plus loin.
Elisabeth Morinot.
Moi, je voudrais juste insister sur le fait que la loi, c'est bien. Mais il faut que les entreprises comprennent que le monde a changé. Beaucoup d'entre elles l'ont constaté. D'ailleurs, ce sont celles qui progressent le mieux parce qu'elles font appel à des experts pour avancer sur le sujet. Mais je voudrais juste dire qu'on a une crise du monde du travail aujourd'hui sans précédent. On a des jeunes qui se méfient du monde du travail, qui n'ont plus envie. Vous vous rendez compte ? On a des générations Y et Z qui n'ont plus envie d'aller travailler dans l'entreprise parce qu'ils ont l'impression qu'il y a des inégalités, qu'il y a des discriminations, qu'il n'y a plus de sens. Si les jeunes n'ont pas envie de travailler, qu'est-ce qui va se passer ? Qui va faire prospérer ces entreprises ? Donc, moi, j'aimerais beaucoup qu'on sorte de cette dichotomie femmes-hommes, comment les femmes sont traitées, comment les hommes sont traités, et qu'on regarde juste ce sujet d'un point de vue bon sens. Pourquoi les femmes ne sont-elles pas traitées comme les hommes dans les entreprises ? Pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas payées de la même manière quand elles ont les responsabilités identiques à celles des hommes ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie ça ? Alors qu'elles sont aussi diplômées, alors qu'elles sont aussi motivées, qu'elles sont aussi compétentes. Qu'est-ce qui justifie cela ? Et si on ne traite pas ce sujet de la bonne manière, la pénurie des talents va continuer à exploser. Et je voudrais juste dire que dans cette fameuse guerre des talents, ceux qui ont gagné cette cette guerre, c'est les talents eux-mêmes. Et si les entreprises veulent attirer tous les talents, femmes et hommes, et femmes en particulier, parce que je pense qu'on n'a vraiment pas considéré la force des talents féminins, eh bien, il va falloir qu'elles fassent un effort beaucoup plus accéléré. Salue les entreprises qui ont déjà avancé.
Ce sont les talents qui ont le pouvoir.
Les talents ont gagné la guerre du talent parce que aujourd'hui, il y a 20 ans, moi j'ai été 30 ans dans le monde de l'entreprise. Il y a 15 ans, c'était les entreprises qui choisissaient les talents. Aujourd'hui, ce sont les talents qui choisissent les entreprises dans lesquelles ils vont travailler.
C'est inversé.
Absolument.
On est dans, quand même, on va conclure, mais on est dans une émission qui s'appelle Happy Boulot. Il y a du positif là-dedans.
Il y a plein de positifs. Les
grandes entreprises, elles sont quand même.
D'abord, la manière dont les grandes entreprises s'emparent de la question. Hein, on a vu qu'entre 2019 et 2023.
Plus que les TPE, PME, pour
absolument. Alors, parce que c'est plus facile.
Ça s'explique. Il y a des organisations syndicales qui sont plus implantées.
Voilà. Bien sûr.
Donc, forcément, il y a plus de négociations. Mais ce qui est positif aussi, c'est que le sujet est pris à bras le corps. On voit que les organisations syndicales s'en sont saisies. La meilleure preuve, c'est l'arrivée de Sophie Binet à la CGT, de Marie-Lise Léon demain à la CFDT.
Oui, complètement.
C'est extraordinaire. C'est historique que dans la même année, on ait deux femmes. Après Arlène Laguiller, après Nicole Nota, en la même année, deux femmes qui arrivent. Et je les salue. Je salue leur courage parce qu'il va en, il va falloir dans les temps qui
viennent. On va conclure là-dessus.
Ça, c'est un élément positif. Et puis, j'ajouterais aussi que ce qui est positif et ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que plus les partenaires sociaux se saisissent du sujet, plus les choses avancent et c'est devenu un objet de consensus clair.
La bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai, vous avez raison.
Passionné.
Happy work. il faut quand même dire que moi, on est à une époque où les transformations sociétales les plus importantes vont se passer dans le monde de l'entreprise. C'est à la fois une opportunité extraordinaire, mais un défi aussi pour les patrons, pour les managers, qui doivent s'adapter à un monde un peu nouveau. Mais c'est possible, et il y a plein de choses à construire. C'est ça la bonne nouvelle.
Sujet qui nous passionne, et on voit que vous êtes aussi passionné. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Isabelle Nicolas, directrice opérationnelle de Sextant Expertise, Elisabeth Moreno, chef d'entreprise, ancienne ministre de l'égalité femmes-hommes.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
Et focus dans les minutes qui nous restent sur les nouvelles habitudes de travail. Avec vous, Alexandre Cadin, bonjour.
Bonjour Erwan.
Ravi de vous retrouver Alexandre, vous êtes cofondateur président de Worklib, plateforme qui permet aux entreprises d'organiser le travail hybride et de réserver leurs espaces de coworking. Vous nous rappelez un peu la solution que vous avez mis en place et surtout ses origines.
Oui, avec plaisir. En fait, on a lancé Worklib il y a 2 ans, à un moment où le monde du travail bougeait très rapidement. Concrètement, on passait d'un monde où l'on travaillait 5 jours sur 5 au bureau à un monde qui allait se concentrer plus sur les équipes, leurs usages.
Où le télétravail, d'ailleurs, était un mot tabou hein, dans beaucoup d'entreprises.
Exactement, ouais.
Et ça a complètement changé. Hein.
Ça a complètement changé. On se retrouve avec 85% des collaborateurs qui plébiscitent le travail hybride, cette combinaison du travail au bureau et à l'extérieur, notamment chez soi, mais aussi dans des tiers-lieux.
Des employeurs qui se rendent compte aussi que ça fonctionne très bien.
Exactement.
Donc, ils sont rassurés. Et votre solution, elle a du sens.
C'est ça, et en fait, on se rend compte qu'il y a ce désir de flexibilité pour les espaces de travail du côté des collaborateurs, des équipes, qui provoque du coup aussi un besoin de flexibilité sur les espaces de travail pour l'entreprise, puisqu'en mettant en place le télétravail, ils se retrouvent avec des espaces inutilisés, des mètres carrés vides. Et concrètement, on vient répondre à cette envie de flexibilité de la part des collaborateurs et des entreprises avec Worklib.
Et vous accélérez très fort tout récemment, puisque vous avez racheté le pionnier français du secteur, Néonomade, levé 10 millions d'euros, tout ça dans le but d'aller toujours plus loin, toujours plus fort.
Exactement. Donc aujourd'hui, Worklib, c'est la plateforme des espaces de travail flexibles qui du coup permet aux entreprises, aux collaborateurs d'organiser leur semaine, que ce soit au bureau, à la maison et dans 6000 espaces partenaires. Et avec Néonomade, désormais, on a une offre qui s'est élargie sur tout le territoire français qui nous permet de concevoir une ambition internationale, en tout cas des premières expérimentations en Europe dès la fin de l'année.
À la hauteur de ce qui existe déjà, parce que malgré tout c'est un secteur concurrentiel, il y en a déjà des acteurs, notamment acteurs américains, qui sont sur ce créneau-là. Comment est-ce que vous positionnez ?
Alors justement, on a une position qui consiste à vraiment partir du besoin de l'entreprise, qui est souvent de pouvoir gérer à la fois les espaces de bureau, les espaces internes de l'entreprise et la mise à disposition d'espaces flexibles. Mmh. Notre solution, elle intègre justement la gestion des deux. On va permettre d'organiser le flex office dans l'entreprise, d'optimiser le coût économique et écologique aussi de ces surfaces, tout en mettant à disposition quantité d'espaces disponibles à l'extérieur pour permettre aux équipes de travailler au bon endroit, au bon moment. Et aujourd'hui, on a, je crois, la plateforme la plus convaincante sur le sujet.
Vous attirez d'ailleurs les investisseurs, hein, notamment le PDG d'Accor, Sébastien Bazin, qui a investi personnellement dans votre start-up. Ça, c'est un signe encourageant et c'est finalement le tampon qui valide le modèle.
Oui, je crois, notamment parce que Sébastien Bazin portait une idée qui nous était très chère, qu'il appelle le Workspitality, cette question d'amener le monde de l'hospitalité vers le monde du travail, que concrètement l'expérience de travail demain devra être d'excellente qualité pour permettre aux employés de revenir au bureau et garantir une expérience de qualité continue tout au long de la semaine, quel que soit leur espace
de
travail.
Et on peut imaginer des partenariats, des collaborations avec le groupe Accor.
Bien sûr, on travaille déjà avec le groupe Accor pour tout simplement mettre à disposition certains de leurs espaces. Ils transforment certains des lobbies en open space, des chambres en bureaux, pour devenir un acteur important du coworking. Et évidemment, on met à disposition sur notre plateforme notamment ces espaces.
D'un mot pour conclure, les objectifs sur l'année?
Bien sûr, alors on consolide notre présence en France, on a élargi une offre qui nous permet de gérer des surfaces de la très courte à la très longue durée maintenant, grâce à notre acquisition de Néonomad, et l'accélération vers l'Europe, qui est permise par notre levée de fonds.
Worklib, merci beaucoup Alexandre Cadin.
Merci Erwan.
Président, cofondateur qui était notre invité. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez Happy Boulot, bien sûr, en replay, en podcast. Et puis cette émission, c'est la vôtre. Ce qui nous intéresse, c'est les sujets qui vous préoccupent. Vous nous écrivez, bien sûr, une seule adresse avec vous à bfmbusiness.fr. D'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.